Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons faire deux lectures, s'il vous plaît. La première dans Philippiens, au chapitre 1er. Dans Philippiens, nous allons voir ce que Dieu demande au travers de l'apôtre Paul aux chrétiens. Qu'est-ce que Dieu veut ? Est-ce que vous savez ce que Dieu veut pour vous ? Eh bien là, vous en avez un exemple. Philippiens, chapitre 1er, verset 9. Philippiens, chapitre 1er, verset 9. Il n'y a pas un peu d'écho ? Non ? Si, un peu. Philippiens, chapitre 1er, verset 9. Voilà, merci. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi ? Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Donc Paul, inspiré par le Saint-Esprit, demande que les chrétiens aient le discernement spirituel. C'est le titre de ma prédication ce matin, c'est dans le cadre de la discipline dans l'Église. Vous comprendrez pourquoi ça se relie énormément. Mais c'est une chose que Dieu veut, que nous ayons du discernement spirituel. Et croyez-moi, beaucoup de chrétiens en sont privés. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, le Seigneur Jésus fait ce reproche aux chrétiens de l'époque, aux pasteurs de l'époque, et regardez ce qu'il leur dit. Luc, chapitre 12, verset 54. Il s'adresse à des frères, à des pasteurs, des croyants, et leur fait un reproche sévère, car à des moments, nous avons besoin d'être repris. Luc 12, 54. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. » Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel ? Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci ? On aurait pu prendre cette question, d'ailleurs, en titre de la prédication, ça aurait été encore plus juste. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci ? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même de ce qui est juste ? Amen. Pourquoi ne discernons-nous pas les choses importante dans la parole de Dieu. Si vous lisez dans le Proverbe 8, verset 7, ne le lisez pas, il est dit, mais stupide, apprenez le discernement. Donc, on voit que tous les hommes, seraient-ils sots, seraient-ils diminués, peuvent apprendre le discernement. Donc, c'est pas Jésus ne méprise pas les gens. Quand il y a des versets comme ça, stupides, apprenez le discernement, c'est pas pour dire, tiens, il y a des gens stupides, voilà, je suis déçu, il y a des gens stupides. Non, ça veut dire que n'importe qui peut découvrir vraiment le discernement des choses spirituelles. Et Paul le dit d'une autre façon, il dit, mais offrez vos corps, et je résume, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que c'est important de discerner la volonté de Dieu ? Parce que c'est une question importante. Moi, je vous le dis avec beaucoup de chagrin, beaucoup de chrétiens ne comprennent absolument rien à la volonté de Dieu. Ils lisent les Écritures, mais ils ne discernent rien de la volonté de Dieu. Je pense que si vous êtes cohérent, illuminé par le Saint-Esprit, vous croyez que nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Est-ce que vous le discernez ? Je veux dire, c'est quelque chose d'important. Hier, avec les frères, nous avions un moment de partage, quand il est dit qu'il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, avant qu'on ait vu paraître le fils de la perdition, on voit bien que c'est le signe qui va démontrer que Jésus-Christ va revenir nous chercher, c'est que l'apostasie est entrée dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Alors il faut comprendre, ce n'est pas un sujet comme ça qu'on peut aborder avec 4 ou 5 versets comme je viens de le faire, il faut comprendre que de tout temps, le diable a tout fait pour introduire l'hérésie dans l'église, pour introduire l'erreur, le mensonge et des choses BCBG, des nouvelles choses dans l'Église, que beaucoup de pasteurs, que beaucoup d'Églises acceptent comme étant presque des nouveautés super qui vont bénir les gens. On voit de ces choses, alors peut-être je vous en citerai quelques-unes, c'est peut-être pas utile. Mais mes frères et sœurs, de tout temps, le diable a tout fait pour introduire dans l'Église des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. On en a parlé un peu la semaine dernière, je ne reviendrai pas là-dessus. Et le résultat, c'est qu'il a réussi à éloigner les chrétiens de la vérité. C'est pour ça qu'il y a des gens, moi j'ai discuté avec un chrétien, je vous donne un exemple. Ah bon, on ne peut pas mentir, même quand c'est pour le bien. Voilà, c'est un chrétien. Comme quelqu'un dans le monde. Est-ce que c'est normal dans le monde que quelqu'un dise « Oui, on peut mentir ». Dans le monde, c'est normal. D'ailleurs, c'est écrit que leurs pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. C'est écrit, ça. Donc, on peut le comprendre qu'un païen dise « Non, il ne faut pas mentir ». Et puis, on demande « Si, je n'ai pas voulu dire à ma mère qu'elle était gravement malade. Je n'ai pas voulu le dire. J'ai menti pour son bien ». Vous voyez, les pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. C'est écrit. Mais un chrétien, est-ce qu'il peut concevoir que le mensonge puisse être bien? C'est la preuve qu'il manque de discernement. Et ça, c'est vraiment le béaba du béaba, croyez-moi, chez le chrétien. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien, l'Église, quand je pense à l'Église, ce n'est pas l'Assemblée de Dieu de Sainte-Agne, c'est l'Église en général. L'Église est dans une grande confusion. Grande confusion. Et je ne pense pas qu'on en ait conscient. Alors, il ne faut pas être troublé. Il ne faut pas être troublé, surtout. Et ne pas être étonné. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? On le lit dans 2 Timothée, un texte auquel je fais souvent allusion. Mais quand même, c'est bien de le relire, parce qu'il y a des personnes nouvelles qui découvrent l'Évangile. 2 Timothée, chapitre 3. Il faut lire ces choses, elles ont été écrites, parce que c'est par rapport au dernier jour. 2 Timothée, chapitre 3. Je me suis posé la question, est-ce qu'il faut relire ces textes? Ben oui. Oui, parce que certains d'entre vous avez besoin, nous avons besoin de les relire, et les nouveaux, vous avez besoin d'en prendre conscience. 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Bon, ça c'est pas nouveau. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. » J'en profite les parents, si vos enfants sont rebelles, partagez ces choses avec eux. Indiquez-le leur. Ça peut arriver qu'un enfant soit rebelle, ne croyez pas que... Mais il faut le leur dire. Il faut vraiment le leur dire. Il faut leur dire qu'ils n'obtiendront pas la bénédiction de l'Éternel. Vous savez, Élie n'a pas voulu reprendre ses enfants. Vous avez vu comment ça s'est passé? Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. S'il faut choisir entre le judo et la réunion d'ados, c'est choisi. Moi, je vais vous dire, aimez Dieu plus que le plaisir. Mais ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Et l'apôtre Pierre rajoute, on peut lire aussi dans 2 Pierre chapitre 2, il faut lire ces textes. C'est à cause de ces textes, grâce à ces textes, que les croyants fervents ne seront pas dans la confusion et auront du discernement. 2 Pierre chapitre 2, verset 1er, de Pierre, chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous. Moi, ces deux mots, ça me brise le cœur. Il y aura parmi vous. Donc, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il y aura de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Vous n'aviez pas la référence? Parce que j'ai entendu plusieurs parler, 2 Pierre, chapitre 2, verset 1er. Voyez, Pierre ajoute la même chose, il y a parmi nous, il y a au-dedans de nous, il y a dans l'Église de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux bergers qui enseignent tout un tas de choses qui fait qu'il n'y a aucun discernement. On est capable, bien sûr, de discerner, comme dit Jésus dans l'Évangile de Luc ou quand on a lu de Matthieu, quand il dit « Mais vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » Et l'Église d'aujourd'hui ressemble beaucoup au peuple de Dieu, au temps du Seigneur Jésus-Christ. On est capable de discerner des petites choses, mais on n'est pas capable de discerner les signes du ciel. Combien d'Églises sont convaincues que Jésus est à la porte? Combien d'églises en sont convaincues? Combien de gens vraiment se préparent? Vous voyez ces réunions d'évangélisation? Est-ce que c'est important des réunions d'évangélisation? Eh oui, c'est important de dire, oh Seigneur, bon, peut-être vous ne pouvez pas venir à toutes. Mais voyez, d'être souple comme je le suis, certains l'utilisent. Ah, mais moi je ne peux pas. Il a dit que ce n'était pas grave si on n'allait pas à toutes les réunions. Oui, parce que vous pouvez vous occuper de votre maman, vous pouvez vous occuper de quelqu'un, vous avez peut-être un conjoint converti, etc., etc. Mais je crois que le Saint-Esprit nous conduira à travailler pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangélisation. Ce n'est pas possible dans une église où il y a le Saint-Esprit qui agit, nous devons faire de l'évangélisation, nous ne pouvons pas faire de l'évangélisation. Et combien d'églises ont perdu de vue la doctrine biblique? Cette prédication, quand je l'ai préparée, je me suis dit, tiens, tu vas la préparer pour les anciens. Tu vas la préparer pour les anciens, pour les pasteurs, pour les stagiaires, parce que c'est pour moi, c'était au départ, c'était pour eux. Puis je me suis dit, non, cette prédication, elle est pour tous les chrétiens. Parce que, pourquoi? Ben parce que Dieu demande à tous les chrétiens d'examiner toutes choses. C'est aux Thessaloniciens que Dieu dit, examinez toutes choses. Il ne le dit pas aux pasteurs, il le dit à tous les chrétiens, examinez toutes choses. Combien de chrétiens ont ce souci, en plus de la bénédiction, d'examiner les prophéties, d'examiner les textes bibliques, de faire comme le chrétien de Béret, qui, vous vous rappelez, quand Paul prêchait, c'était Paul, eh bien ça fait rien. Il voulait voir si ce que Paul disait était conforme à l'enseignement de l'Ancien Testament. Dieu loue ces chrétiens. Pourquoi? Eh bien parce que c'est exactement ce que Dieu veut que nous fassions, que nous regardions si ce que nous écoutons est conforme à la parole de Dieu. Hier, on en a parlé avec les anciens. Est-ce que vous viendriez me le dire, à part ma femme, mais si je disais quelque chose qui n'est pas biblique? Monsieur Blanc, vous me le diriez? Est-ce que vous le diriez? Est-ce que vraiment... Oui, Madame Delavre, oui, je sais. C'est vrai que Madame Delavre, oui. Mais est-ce que vous m'aimez? Eh bien, vous me le direz. Si je venais à dire quelque chose qui n'est pas... C'est ça, aimer l'Église. C'est ça, veiller les uns sur les autres. C'est ça, se protéger. Il y a des églises, on raconte des âneries, personne n'ose dire quelque chose au pasteur. Moi, je crois que mes frères et sœurs, quand on discerne les choses spirituelles, on a ce devoir de veiller les uns sur les autres pour que la parole de Dieu conserve la doctrine biblique. Et moi, j'ai entendu, je le dis, peut-être c'est pas bien, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que c'est toujours bien. Mais moi, j'ai entendu qu'il ne fallait pas qu'on parle de la doctrine biblique, parce que ça allait nous diviser. Si on parlait de la doctrine, ça nous diviserait. Vous voyez un petit peu le piège? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le piège, je l'ai entendu plusieurs fois, qu'il valait mieux éviter de parler de la doctrine biblique. Moi, je peux vous dire, si on ne parle pas de la doctrine biblique, la parole de Dieu n'aura aucune autorité. Aucune autorité. Ce n'est pas possible, parce que Dieu bénira toujours sa parole. Le respect de Dieu, le respect profond de Dieu, est-ce que nous l'avons? Est-ce qu'il faut en parler du respect profond de Dieu? D'arriver à l'église, d'arriver à l'heure, bien sûr que ce n'est pas facile pour se garer, mais est-ce que, quand il y aura le réveil, est-ce que vous croyez que tous les chrétiens seront à l'heure au culte? Moi, je crois. Alors, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que des chrétiens m'ont fait des reproches par rapport à ça. Moi, ça ne m'échaîne pas et je le comprends. Mais il y a quand même le respect. Ça s'enseigne, le respect. Ça s'enseigne. Est-ce que ça ne s'enseigne pas, le respect? On le fait, si on a rendez-vous avec quelqu'un, avec un docteur, avec une autorité, un notaire, etc., un notable, eh bien nous nous appliquons, arriver à l'heure. On tient compte des bouchons, on tient compte des impondérables, etc., etc. Combien d'églises ne parlent plus de la repentance? Ne veulent plus parler de la repentance, ne veulent plus parler du péché, ne veulent plus parler de l'humilité vis-à-vis de Dieu et de l'humilité vis-à-vis des frères. Parce que dans une église, moi je crois qu'on est, on n'est pas qu'humble avec Dieu, on est humble avec les frères. Oui ou non? Alors on pourrait, voyez, brosser toute la doctrine. Si vous avez besoin d'infos sur la doctrine et d'exhortation, allez voir Monsieur Olé qui vous donnera toute la doctrine biblique que vous pouvez d'ailleurs étudier. Vous savez que Monsieur Olé fait tout un tas de cours pour les pasteurs, les prédicateurs, les enseignants, etc., les anciens. Mais c'est précieux, on ne se rend pas compte combien. C'est comme ça qu'on sera gardé à la fin des temps par un véritable discernement qui s'intéresse toujours à l'œuvre de Dieu. Je vous pose la question, ne répondez pas à haute voix, mais c'est pas parce qu'on est au culte qu'on s'intéresse à l'œuvre de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais je vous pose la question, solennellement, est-ce que vous pouvez dire, oui, je m'intéresse à l'œuvre de Dieu? je m'intéresse à l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous pouvez le dire, ou est-ce que vous, vous dites, voilà, moi je vais au culte, c'est bien. J'ai une église, c'est bien. Mais répondez honnêtement, comme si Jésus lui-même vous posait la question, est-ce que tu t'intéresses à l'œuvre de Dieu? Est-ce que les enfants de l'église, nos enfants, les adolescents de l'église, nos ados, les couples de l'église, est-ce que je m'y intéresse? Quelqu'un qui est dans le deuil, est-ce que je m'y intéresse ou est-ce que j'y pense même pas? Est-ce que cette semaine je vais prier pour Madame Perron, pour Madame Maury? Est-ce que je vais prier pour Cyril Becker? Vous allez me dire, oh mais monsieur Gou, c'est votre boulot, moi j'ai pas le temps. Vous croyez que c'est comme ça qu'il faut répondre? Moi je ne crois pas. Mais c'est quand même des questions qui nous montrent véritablement où on en est de ce discernement. Parce que quelqu'un qui a du discernement spirituel, il va faire l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas possible, quelqu'un qui discerne, si au milieu de la route vous voyez un sanglier qui traverse, je peux vous dire que vous allez discerner où est la pédale de frein, vite fait, oui ou non? C'est un réflexe, c'est un réflexe. Et pourquoi l'œuvre de Dieu ne se fait pas? Parce que les gens ne discernent pas les choses spirituelles. Ils s'intéressent à la bénédiction, ils s'intéressent à leur confort, ils s'intéressent à leur propre bénédiction, d'accord. Mais je fais quand même la différence entre les bénédictions que le Seigneur nous donnera, même si on ne s'intéresse pas à l'œuvre de Dieu, de toute façon, parce que nous sommes ses enfants, et puis l'intérêt que nous portons à l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'un frère me dit cette semaine? C'est dommage qu'on ne soit pas nombreux à la prière. Moi, je peux vous dire que si vous développez le discernement spirituel, mis à part que vous ne puissiez pas venir parce que si, parce que là, c'est ce qui est vrai, je suis convaincu que quand on discerne l'œuvre de Dieu, on sait qu'il faut combattre pour la foi. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, demandons au Seigneur qu'il nous éclaire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est justement très simple que nous apprenions à discerner les choses spirituelles. Que signifie pour beaucoup un engagement à vivre dans la sainteté? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors, j'ai mes questions, mais elles sont sérieuses, parce que tout ça, c'est lié au discernement spirituel. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, pour moi? Voilà, Dieu veut que je vive dans la sainteté. Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans toute votre conduite. Vous êtes d'accord? C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, je sais que je dois être saint dans ma conduite, dans mes propos. Un frère me disait la semaine dernière qu'il a été dans une église et que dans l'église où il a été, la moitié des chrétiens étaient grossiers. La moitié. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela représente. Ça veut dire qu'il y a la moitié des chrétiens qui n'ont pas pris conscience que Dieu nous appelle à marcher dans la sainteté. Et si on tolère, je pense, moi je ne sais pas, hein, mais si on tolère la grossièreté, je me demande où on en est avec le Seigneur. Une fois que nous sommes convertis, nous sommes appelés à marcher dans la sainteté. Alors moi je vois des chrétiens qui me disent, monsieur Gou, vous avez raison, on a besoin d'entendre ces choses. Et il y a des gens qui me disent, oh monsieur Gou, c'est pas grave, le Seigneur est bon. Alors c'est vrai que Dieu est bon. Cette semaine, j'écoutais un CD qu'on avait acheté il y a peut-être 15 ans, un CD de musique de très bon chant, de très beau chant. Mais j'écoutais ces chants et je me disais, mais si un pécheur écoute ces chants, tous ces chants étaient extraordinaires, mais sur l'amour de Dieu, que l'amour est au-dessus de tout, que Dieu nous aime tellement. Ça fait que vous avez rien à faire, sinon à dire, bon, mais Dieu m'aime, quoi que ce soit que je fasse, quoi que ce soit que j'ai fait, quoi que ce soit qui arrive, Dieu m'aime, je suis sauvé. Ça fait que, et pourtant c'est des chants de chez nous. Et bien sûr qu'on croit à l'amour de Dieu, mais bien sûr qu'on croit à l'amour de Dieu et que la prédication doit être apportée avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de grâce. L'évangélisation doit se faire avec de la grâce et avec de l'amour. Et personne n'oserait dire que Dieu ne nous aime pas. Mais si vous lisez tous les livres de la Bible, vous observerez que dans tous les livres, Dieu punit le péché. Dès qu'Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a restaurés, oui. Mais est-ce qu'ils n'ont pas payé pour le péché qu'ils ont commis? Ils ont payé cher, nous aussi avec. Mais ça aurait été pas eux, ça aurait été vite fait, ça aurait été vite quelqu'un d'autre. Mais Dieu nous appelle à la sainteté. Pour marcher dans la sainteté, il faut du discernement spirituel. Moi, vous savez, je dis les choses, je ne les dis pas toujours bien, je sais. Mais quand même, quelqu'un qui a du discernement, il va de suite, même par intuition, il va marcher dans la sainteté. Quelqu'un qui se convertit, normalement, par intuition, même s'il n'a pas lu qu'il ne sorte de votre bouche des paroles grossières, il ne va plus être grossier. Vous vous êtes converti comment? Quand vous vous êtes converti, ça n'a pas été... Ah bon, on ne peut pas dire les seules lettres? Moi, je ne sais pas, j'aime pas parler de moi parce que ce n'est pas ce à quoi Dieu m'appelle. Mais le soir de ma conversion, je ne me souviens pas. Je me souviens très bien que je n'ai plus dit de gros mots. Et pourtant, je ne l'avais pas lu. Mais je le savais. Est-ce qu'on ne le sait pas par intuition? Bon, je ne dis pas ça pour dire moi, je sais. Non, mais ça nous prouve qu'il n'y a pas de discernement spirituel. Et que nous devons, qui que nous soyons, serions-nous sots, comme dit le proverbe, apprendre le discernement spirituel. C'est un ordre. 1 Thessaloniciens 5:21, examinez toutes choses. Vous voyez sûr que ça ne fait pas partie des promesses que les chrétiens aiment entendre sur la guérison, sur la bénédiction, sur le confort, sur la prospérité, etc. Mais c'est un ordre, examiner toutes choses. Un chrétien doit savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Est-ce que nous savons ce qui est vrai de ce qui est faux? Vous connaissez les reproches que Dieu fait dans l'Ancien Testament au pasteur? Vous n'avez pas fait la différence, vous n'avez pas enseigné la différence entre le bien et du mal, entre le profane, du sacré, entre etc., entre le bien et du mal. Dieu le reproche, vous n'avez pas su faire la différence et vous avez perdu les âmes. On doit savoir ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est acceptable de ce qui n'est pas acceptable. Il y a des choses que vous pouvez regarder, il y a des films certainement que vous pouvez voir, mais je pense qu'il y a des films qu'on ne peut absolument pas voir. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Moi, je peux vous dire qu'on m'a conseillé des films, j'ai vu les 3 premières minutes. Et c'est des chrétiens qui me les ont conseillés. Et c'est d'une grossièreté, d'une vulgarité. Alors moi, je ne veux pas juger, mais surtout pas. Mais je vous dis que le problème, c'est qu'il n'y a pas de discernement spirituel. Parce qu'il y a un combat. C'est vrai qu'il y a un combat. Alors, on va expliquer les choses. Il y a un combat. Nous sommes exposés aux ruses de Satan. Est-ce que Satan est rusé? Est-ce qu'il a des millénaires d'expérience? Oui, Satan est extrêmement rusé. C'est vrai que, même sans parler de Satan, le monde en soi, le monde terrestre, cherche à nous influencer, pour nous dominer. Est-ce que le monde ne cherche pas à nous détruire? Il n'y a pas que Satan, ne mettons pas tout dans le diable. Il y a des choses sur la terre qui cherchent également à nous dominer. Et ce qui se passe aujourd'hui, au niveau des églises, est le résultat qu'on n'a pas examiné toutes choses, qu'on n'a pas été sérieux, qu'on n'a pas prié pour avoir du discernement spirituel, parce que vous verrez à la fin, le Seigneur nous demande de chercher ces choses de tout notre cœur, plus que l'or, plus que l'argent, de le chercher, et nous trouverons le discernement spirituel. Alors, quelles sont les causes de ce manque de discernement? Une des causes, c'est qu'on ne prêche plus la doctrine avec conviction. Voilà le résultat. À cause de la confusion, on prêche un évangile qui est dilué, édulcoré, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, que Dieu vous aime, etc. Vous savez, bientôt, je le dis, ne riez pas. Mais bientôt, on pourra chanter, on pourra ajouter dans les Winazaf, là, on pourra ajouter la chanson de Michel Polnareff, on ira tous au paradis. Mais je le pense. Je le pense, on pourra l'ajouter, parce que c'est exactement ce qui est enseigné dans bien de nos églises. Alors, je crois que la doctrine biblique, elle doit produire des convictions de péché. Oui ou non? J'ai vécu quelque chose dernièrement, je vous le dis, parce qu'il faut que vous l'entendiez. Un frère, enfin un croyant, a rencontré dans une église une croyante. Ils ont couché ensemble. Ils sont pris le baptême, ils vivaient ensemble, et tout le monde a dit Amen. Et on leur dit, mais vous êtes mariés, puisque vous vous aimez. Ça, c'est sorti de la bouche d'un ancien. Et il faut que des exemples soient concrets. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? À ceux qui prescrivent de ne pas se marier, c'est quoi comme doctrine? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Est-ce que vous l'avez lu? C'est quoi comme doctrine? C'est bien, vous rendez compte, les progrès qu'on a fait. Les gens qui ne sont pas mariés, qui vivent dans le concubinage, ils peuvent... C'est de la fornication. L'adultère, c'est tromper. C'est quand on est marié. L'adultère, c'est quand on est marié, qu'on trompe son conjoint. La fornication, c'est quand on a des relations sexuelles, quand on n'est pas marié. Mais voyez, c'est accepté aujourd'hui. C'est accepté. Dans nos églises. Quand je dis nos églises, je pense à tous les mouvements. Mais c'est accepté dans tous les mouvements protestants. Regardez quand même. Je ne sais pas si on le discerne, mais il n'y a pas besoin d'être un pasteur théologie. Il n'y a pas besoin d'avoir l'enseignement de M. Oulé pour comprendre ces choses. Regardez 1 Timothée 4, verset 1er et verset 2 et verset 2 et 3. Mais c'est ça le discernement. C'est que je lis et je comprends. C'est Dieu qui l'a dit. Et quand il n'y a pas de discernement, on mélange nos sentiments avec nos émotions, avec notre volonté et la volonté du Seigneur. Quand il y a du discernement, on ne mélange pas notre volonté et la volonté de Dieu. 1 Timothée chapitre 4, vous l'avez lu certainement. Les chrétiens, est-ce qu'ils ont lu Timothée? Ou il n'y a que les pasteurs qui doivent lire Timothée? Quand on a lu Timothée, on ne fait jamais tomber les lunettes de son pasteur sur l'écran. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Regardez bien la suite. des doctrines de démons. Ça vient de l'enfer. Ça vient pas ça vient pas de la terre. Ça vient de l'enfer par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier. Voilà, et voilà. Et ça, c'est entré. C'est entré dans nos églises. Et il faut le dire. Je sais très bien que ça ne va pas plaire à beaucoup de gens. Et je sais qu'il y a des gens ici qui sont partis parce qu'on leur a dit, écoutez, vous êtes chrétien, vous vivez dans le concubinage, il vous faut mettre votre vie en règle. Alors, je le dis mieux que ça, bien sûr. On prend un peu plus de temps. Mais est-ce qu'il faut le leur dire? Mais oui, parce que si on ne fait pas ça, le Saint-Esprit ne bénira pas les gens. Et les pécheurs ne passeront pas par la repentance. Parce que le diable a toujours essayé d'infiltrer le péché dans l'Église pour que le Saint-Esprit ne puisse pas agir. C'est ça que le diable veut. Le diable, il s'en fiche pas mal que des gens dans le concubinage viennent. En vérité, ce qu'il y a, c'est les conséquences. C'est que ça empêche le Saint-Esprit d'agir. Et nous, on est là, mais oui, si vous vous aimez, c'est comme si vous étiez mariés. Moi, il y a des gens qui sont venus me voir, monsieur Go, on est marié. Ah, mais vous êtes marié à la mairie? Ah non, juste le pasteur. Mais je voulais l'amener, je l'ai oublié. Les prêtres, les imams, les pasteurs, etc., les curés, n'ont pas le droit de marier quelqu'un qui n'est pas passé par la mairie. Il est passible de prison. Il y a un article, si vous le voulez, je vous donnerai la référence, vous le regarderez sur le code civil. C'est interdit. Et je peux vous dire qu'ils sont nombreux, moi, les gens que j'ai vus, qui ont été mariés par des pasteurs et qui ne sont pas passés par la mairie. Parce qu'on n'est pas marié parce qu'on passe par l'église. On est marié quand on passe à la mairie, selon la loi du pays. Ça aussi, vous voyez, ce manque de discernement. Quand vous pensez que même des serviteurs de Dieu n'ont pas pigé ce truc. Ça vous montre la gravité dans laquelle nous nous trouvons. Voilà, la conséquence qu'il n'y a pas de discernement spirituel fait que nous ne pouvons pas prêcher la saine doctrine. Là, vous en avez la preuve avec ce que je viens de vous dire. On prêche aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Voilà, c'est ce qu'on prêche aujourd'hui aux gens. On prêche aux gens qui sont gentils, que tout va bien, qu'ils iront au ciel. On a dilué la vérité, ça plaît aux gens, on ne parle plus de l'enfer. Voilà, ça plaît aux gens et comme ça, les gens, ils sont contents. Mais malheur aux pasteurs qui ont dilué la vérité, parce qu'au jour du jugement, ils risquent vraiment de le payer très très cher. On a mis l'accent sur les émotions et sur les sentiments. C'est bien d'avoir des sentiments, mais il ne faut pas mélanger la parole de Dieu avec les émotions, les sentiments, et surtout avec sa propre volonté. Et mes frères et sœurs, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a parlé que de la bénédiction. Vous voyez ce CD-là, qui est excellent, il est excellent. Mais c'est impossible qu'un pécheur se repente avec ça, s'il n'entend que ça. Il faut qu'un pécheur entende que le salaire du péché, c'est la mort. Et que le don gratuit de la vie, c'est le salut en Jésus-Christ. Il faut qu'il entende les deux. Il ne faut pas entendre que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut entendre aussi que le don gratuit, c'est Jésus-Christ. Mais mes frères et sœurs, voilà ce qui se passe, qu'il n'y a plus de discernement spirituel. Voilà, on entend des prédications. Et demandez, il vous faut demander et vous recevrez. Tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce que c'est ça l'évangile? Non, c'est pas ça. L'évangile, c'est que ton nom soit sanctifié. L'évangile, c'est ça. C'est comme on l'a chanté ce matin, Saint, Saint, Saint et le Seigneur. Il n'y a pas que des bénédictions et des prospérités et des faveurs, comme si Dieu était un garçon de course qui nous bénit chaque fois qu'on a besoin de lui. Pour beaucoup de chrétiens, j'ai entendu ce témoignage. C'est pas vieux. Depuis que je suis chrétienne, mais moi je suis pareil qu'avant. Je suis pareil, je n'ai pas abandonné mes péchés. Moi, c'est toujours pareil. Par contre, quand j'ai besoin de prier, je prie Jésus, je prie le Seigneur Jésus, je sais où il est, je l'invoque. Voilà ce qu'on entend aujourd'hui. Ça vous étonne? Mais ici, j'ai entendu des choses comme ça. Des choses, mais moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je prie. Voilà, comme si Dieu était là à notre disposition, juste pour nous bénir quand on a besoin de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est qu'on a enlevé la saine doctrine de nos églises. On a prêché l'évangile à l'eau de rose, etc. Et Jude, regardez ce que dit Jude. Notez-le pour ceux qui prennent des notes. Jude 1, versets 3 et 4. Qu'est-ce que Dieu nous demande? De combattre. Il demande. Combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que nos réunions de prière sont importantes, chez vous, mais ici aussi, de combattre. Dieu nous appelle à combattre. Dieu ne nous appelle pas qu'à recevoir des bénédictions, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Le Seigneur nous appelle à combattre. Est-ce que vous le discernez cela? Est-ce que vous aimez être béni? Ben oui, j'espère que personne. Là, vous m'inquiéteriez. Vous croyez que Dieu va vous bénir? il va vous bénir. Même si vous dites, oh, moi, vous savez, un enfant, même s'il n'est pas, même s'il obéit moins qu'un autre, est-ce qu'on le bénit? Est-ce qu'on l'aime quand même? Est-ce qu'on le bénit quand même? Bien sûr, un enfant qui est méchant et un enfant qui est gentil, est-ce qu'on lui donne la même nourriture aux deux? Mais bien sûr, vous voyez, Dieu nous bénira pareillement, mais nous passerons à côté. Dieu nous exhorte à combattre pour la foi. Et nos réunions de prière, c'est ça. Je viens, il y a des gens, ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Ah bon, prier, pourquoi faire? Ah bon, oh ben moi, quand je prie chez moi, je prie pour moi. Voilà. Non, Dieu nous demande de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi nous. Je n'ai pas marqué, mais je crois qu'il est écrit des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Je ne l'ai pas marqué. Hein, parce que je voulais juste le citer. Ce n'était pas important, même si c'est sûr que c'est grave. Qui change la grâce de notre Dieu en dérèglement. C'est ça que je voulais surtout que vous reteniez. On change la grâce de Dieu en dérèglement. Il y a la grâce de Dieu, mais il n'y a que la grâce de Dieu. Voyez, quand je vous dis qu'on entend, et vous l'entendrez dans les églises. Cet été, vous allez voyager, vous allez aller à des cultes, et vous allez entendre, oh, la doctrine, on en parle de moins en moins, parce que ça nous divise, et il ne faut pas se diviser. Oui, mais sans la doctrine, il sera impossible de distinguer la vérité de l'erreur. Et on a tout mélangé, et le résultat, il est grave, parce que les chrétiens sont dans la confusion. Regardez le psaume premier. Vous connaissez le psaume premier? Qu'est-ce qu'il nous demande, le psaume premier? De suite, de séparer la vérité de l'erreur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui médite la parole de Dieu jour et nuit, et voilà, on voit quelqu'un, de suite, le psaume premier, Dieu nous demande de séparer la vérité de l'erreur. Et si on n'a pas la sainte doctrine, ça sera impossible. Et moi je vous le dis, les jeunes qui partiraient parce que vous allez vous marier, vous allez partir dans d'autres églises, parce que le travail vous amènera ailleurs, vérifiez que la sainte doctrine soit toujours enseignée. Regardez ce que Paul dit à Tite, on va le lire, je vois qu'on a du temps. Regardez avec moi, dans Tite, juste après Timothée. On appelle cela les épîtres pastorales, mais c'est quand même pour tout le monde, croyez-moi. Qu'est-ce que Paul dit à Tite? Tite, chapitre 1er, on va lire verset 7. Voyez, Tite, chapitre 1er, verset 7. « Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, verset 9. Qu'il soit attaché, regardez bien, qu'il soit attaché, et là je m'adresse aux frères, qui allait présenter la Sainte Cène, aux frères qui feraient chanter, aux frères qui prêcheraient, aux frères qui iraient ailleurs prêcher la parole de Dieu. N'allez pas prêcher pour faire plaisir aux gens, allez prêcher la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Un évêque, un ancien, un chrétien, il doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Il doit être capable d'exhorter selon la saine doctrine, de réfuter les contradicteurs. Et combien de fois on m'a dit, oh monsieur, la doctrine, chacun la voit à sa façon. J'ai entendu ça. Et ne marchez pas dans ces choses. Tant pis si des gens ils veulent marcher selon leur façon. Pourquoi il n'y a pas de discernement? Parce que les gens ne connaissent pas la saine doctrine et ils sont intéressés que par la bénédiction. Mais je vous repose la question. Est-ce que vous vraiment vous êtes intéressé par la bénédiction, que par la bénédiction, ou est-ce que vraiment vous voulez être attaché à la saine doctrine? Vous avez entendu, mais écoutez, vous avez vu avec le pataquès qu'il y a eu sur le mariage gay. Vous avez vu tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit, même dans les milieux chrétiens. C'est abominable. C'est abominable. C'est une infamie, c'est à cause de ça que la colère de Dieu va venir sur les fils de la rébellion. J'en suis parlé de ceux qui, dans l'Apocalypse, ont choisi d'être rebelles. C'est clair que je ne voudrais pas être à leur place. Mais mes frères et sœurs, un chrétien, quand j'entends un ancien de chez nous, pas d'ici, mais de chez nous, parce qu'il n'y a qu'une église, quand j'entends un ancien qui dit, mais c'est pareil, vous êtes mariés devant Dieu, il ne se rend pas compte qu'il est en train d'infiltrer une doctrine qui vient de l'enfer. Et si vous êtes pas mal, alors si vous découvrez l'évangile, si vous êtes dans le concubinage, soyez les bienvenus, mettez votre vie en règle. Mettez votre vie en règle. Soyez sûr que cette personne, c'est... Parce qu'il y a des gens aussi qui sont arrivés, clopin-clopin, dans des conditions terribles. On leur a dit, mettez votre vie en règle. Mais je peux vous dire que ce n'était pas du tout la volonté de Dieu qu'ils soient ensemble. Donc, alors, avant de vous marier, avant de mettre votre vie en règle, vérifiez si vous êtes fait l'un pour l'autre. Demandez à Dieu, parce que ça aussi... Après, il y a des gens qui viennent nous trouver. Oui, vous nous avez dit de nous mettre en règle et on ne s'entend pas. Mais voyez, comme quoi on a besoin de toute la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Un autre problème, pourquoi il n'y a pas le discernement spirituel, c'est que l'Église agit comme le monde. L'Église, elle pense que si on est comme les gens du monde, si on fait comme eux, si on parle comme eux, si on a le même look qu'eux, si on fait les mêmes choses qu'eux, ils vont finir par nous apprécier, parce qu'ils verront qu'on est comme eux, Alors, s'ils nous apprécient, peut-être qu'ils vont apprécier notre Jésus. C'est ce qui est en train d'être entré dans l'Église, ça. On est en train de faire tout un tas de choses. Voyez, on fait ceci, on fait cela, on vend des fringues. Voyez, on parle. Oui, c'est ça, c'est bien. Et certains utilisent ce genre de propos que je viens de citer. On se fait tout à tous. Voyez, on est dans le vent. Et vous pensez que c'est comme ça qu'on va gagner les perdus? Moi, je crois qu'on gagnera les perdus quand il y aura une barrière, un mur entre l'Église et le monde. Et que l'Église marchera dans la sainteté. Dieu bénira les prédications. Dieu bénira la parole de Dieu. Dieu confirmera sa parole. Chaque fois qu'on imposera les mains aux malades, ils seront guéris. C'est une façon de parler. Quand on fera l'onction d'huile, les gens seront guéris. Parce que Dieu approuvera sa parole. Mais n'essayons pas de ressembler aux gens du monde pour essayer de les gagner. Oui, on est comme eux. Les journalistes ont dit que c'était vachement bien parce que c'était super. Tout le monde dansait, tout le monde criait, tout le monde sautait. Voilà, vous vous rendez compte, TF1, ce qu'ils ont dit. Mais moi, ce que TF1 pense de nous, ça me préoccupe pas beaucoup. Ce que Jésus pense de nous, ça me préoccupe un petit peu plus. Mais voyez, c'est ça. Et le manque de discernement, il vient parce qu'on a essayé, par les ruses du diable, de nous faire croire que si l'Église ressemblait au monde, on gagnerait le monde. Eh bien, ce n'est pas vrai, c'est exactement l'inverse. En voulant ressembler au monde, l'Église, elle est dans le monde. On n'a pas ressemblé au monde, on doit être soi-même, on doit être vrai, chacun a sa personnalité, soyez vous-même. Mais n'essayons pas de penser que si on est comme eux, on n'aura plus de facilité à les gagner. Nous les gagnerons par la sanctification. Nous les gagnerons par une véritable prédication qui est approuvée de Dieu. Et si l'Église n'enseigne pas la sainte doctrine, et si elle n'a pas ce comportement saint, elle sera dans l'apostasie, elle sera dans la confusion. Et c'est vrai que petit à petit, je ne pense pas que je vous enseigne beaucoup de choses dans ce que je vais vous dire, l'Église est en train de se transformer en entreprise sociale, bienveillante. Voilà, il faut faire ceci, il faut distribuer la soupe, il faut donner des vêtements. Est-ce qu'il faut le faire ça? Oui, il faut le faire. Ce que ta main peut faire, fais-le. Ne refuse pas un bienfait à ton prochain quand tu as le pouvoir de l'accorder. Mais l'Église, je suis désolé, c'est pas ça. L'Église, c'est l'outil que le Seigneur utilise pour manifester sa gloire au milieu de nous. Et il le fera par la sanctification. Et nous avons vu hier avec les frères des situations de personnes dans l'Église avec qui nous allons avoir des entretiens parce qu'elles ont, par exemple, outragé l'Église. Outragé, vous savez ce que c'est? Un outrage à un agent? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il reçoit celui qui insulte un agent? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais oui, mais c'est normal. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui insulte l'Église du Seigneur, il reçoive une amende? Eh oui, pourquoi? Pour le salir, le maudire? Ou pour lui faire prendre conscience qu'il est loin de Dieu? Et tous ces cas, alors je n'aurai pas le temps ce matin, mais il faudra les aborder. Il faudra les aborder pour que chacun d'entre nous puissions aider les autres, parce que le but, ce n'est pas d'exclure les gens. Le but, c'est toujours de les gagner, qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Et moi, je vous assure qu'en tant que pasteur, souvent, vous me dites « merci, monsieur Gou, merci, monsieur Gou ». Mais moi, je peux vous dire que je m'interroge et que le Saint-Esprit, lui, me pousse à plus que des éloges, mais certainement à veiller à ce que dans l'Église, nous nous appliquions à faire en sorte que nous marchions dans la sanctification. Peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde. Je ne sais pas si ça vous plaît. Mais moi, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu bénisse sa parole. Ce qui est important, c'est que demain, cet après-midi, si vous amenez un pécheur, il soit convaincu de pécher. Et cet homme dont je vous parlais tout à l'heure, qui a vécu pendant des années avec une fille chrétienne, tout en étant chrétien, etc., 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 il était là jeudi soir. Et il est parti en pleurant. Et je dois le voir mardi. Voyez comment Dieu bénit. Qu'est-ce que Dieu veut? Bénir cet homme. Vous croyez que Dieu veut le bénir? Dieu, on n'est pas là pour faire du mal aux gens. Mais on est là pour présenter la parole de Dieu telle qu'elle doit être. Et je vous assure, mes frères et sœurs, vous allez être étonnés comment Dieu est capable de bénir, comment Dieu a envie de nous bénir. Mais il ne bénit que quand on respecte la saine doctrine. Il ne bénit que quand on ne se conforme pas au monde. C'est pour cela que nous devons prier pour avoir du discernement spirituel. Est-ce que vous allez en faire une priorité dans votre vie? Ou est-ce que vous dites, Seigneur, bénis-moi, bénis mon patron, Seigneur, fais qu'il m'augmente. Seigneur, tu l'as dit, que tout ce qu'on demanderait avec foi, on le recevrait. C'est ça votre vie spirituelle? Ou votre vie spirituelle, Seigneur, donne-nous du discernement, donne-moi d'aimer la sainteté. Quand je vois des chrétiens qui regardent des films violents, grossiers, moi ça m'est arrivé, combien je me suis senti repris d'entendre un gros mot dans un film, ça vous est jamais arrivé? Ça vous est jamais arrivé? Ça devrait nous. On devrait avoir honte lorsque ça se passe. Et que qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs, si nous sanctifions le nom du Seigneur, Dieu va nous aider. Et nous devons travailler à cela, résultat ou pas résultat. Un frère disait hier à juste titre dans la réunion des anciens, mais pourquoi on le fait? Ben on ne le fait pas pour le résultat. On ne le fait pas pour être béni. On le fait pour honorer Dieu. Est-ce que vous comprenez? On le fait, parce que si on le fait en arrière, en intérêt, on va le faire, c'est bien, le Seigneur va nous bénir. C'est pas bien. On le fait pour honorer la parole. Parce qu'on aime le Seigneur, on veut honorer la parole de Dieu. Oui, on va parler avec amour. Oui, on va présenter la grâce de Dieu. Mais on présentera également toute la sainte doctrine, afin que Dieu bénisse vraiment sa parole. Et je termine avec cette pensée. Le discernement spirituel fait défaut parce qu'on a justement méprisé, renoncé à la discipline dans l'Église. Ça, c'est une des raisons pour laquelle il n'y a pas de discernement. On a renoncé à la discipline dans l'Église. Et je bénis Dieu pour mon accident, parce qu'il m'a permis, non pas de buller, parce que je suis à mi-temps, mais de prendre beaucoup, beaucoup de temps pour me tenir devant la face de Dieu et réfléchir sur ce qu'est la marche de Dieu dans l'Assemblée. La sainteté doit régner dans l'Église. Vous connaissez tout ce texte. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi, il est seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi deux ou trois frères afin que l'affaire se règle sur la déposition de deux ou de trois témoins. S'il n'écoute pas, dis-le à l'Église. C'est écrit ou c'est pas écrit? Pourquoi? C'est pour le gagner. Pour que le gars se dise, mais oui, je ne fais plus partie du corps de Christ. On m'a fait comprendre que je ne faisais plus partie de l'Église. C'est dans quel but? Mais de le gagner. Le gars, il se dit, mais je ne suis plus dans l'Église. Quelle honte! Quelle honte, et c'est ça, et on va le faire, par rapport à deux ou trois cas, qui vraiment, croyez-moi, vous n'êtes pas au courant, mais je peux vous dire qu'ils sont, c'est obligé qu'on le fasse, sinon Dieu ne peut pas nous bénir. Et puis moi je veux qu'on gagne ces gens, vous savez, quand j'étais à Groyer, j'ai mis une dame en discipline. Cette dame, elle paraissait très 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 spirituelle, et puis le Seigneur m'a vraiment montré le mal qu'elle faisait dans l'Église, le mal qu'elle faisait dans sa famille. Et un jour, en parlant avec les anciens, on a fait ce que la Bible dit. On a fait ce que la Bible dit. J'ai fait ce que la Bible dit. Si ton frère a péché, ben, reprends-le. Elle a mal réagi. Puis, etc., etc., etc. Et un jour, je l'ai dit à l'Église. Je dis, voilà, cette sœur ne fait plus partie de l'Église. Nous avons été obligés de lui demander de se retirer, en espérant qu'elle va se repentir. Elle était folle contre moi. Sa famille m'a demandé une visite et m'a dit, maintenant, nous, on pourra venir à l'Église. Parce qu'on voit que vous voulez mettre de l'ordre dans l'Église. Il nous était impossible de venir. Et quand j'étais en Polynésie, que j'exerçais mon ministère, un jour j'ai reçu un courrier. Monsieur Go, je tiens à vous demander pardon. Je réalise mon péché. Je réalise combien j'ai été mauvaise et méchante. Est-ce que je peux revenir dans l'Assemblée? Elle est venue, elle a demandé pardon à toute l'Église, et Dieu l'a bénie. Et si on ne l'avait pas fait, eh bien elle serait partie en enfer. Et Dieu ne nous demande pas d'être gentillou, Dieu nous demande d'être spirituel. Mes frères et sœurs, ça c'est aimer les gens. Et quand je prie pour cette femme, parce que je pense bien sûr souvent à elle, c'est pas parce qu'on est dur envers, enfin qu'on est dur, qu'on est sévère envers certaines personnes, qu'on les aime pas. Au contraire, c'est comme nos enfants. Il y en a certains qui sont plus durs, on les aime autant. Mais mes frères et sœurs, le discernement, Dieu nous a aveuglés, et c'est vrai ce que je vous dis. Dieu peut nous aveugler si nous n'exerçons pas la discipline dans l'Église. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons sérieux et pleins d'affection, pleins d'amour. Tout ça, ça, au contraire, c'est une preuve d'amour, c'est une preuve de tendresse, c'est une preuve d'affection. Parce que Dieu veut que nous soyons des maîtres. Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants emportés à tout vent de doctrine. Je fais allusion à des versets bibliques. Vous avez vu un bébé, il gobe n'importe quoi. Mettez un bébé dans le jardin, il va tout mettre à la bouche. Il va tomber sur une crotte de chat, clac, il va la mettre à la bouche. Il goûte tout un bébé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais il y a des chrétiens, à cause du fait qu'ils n'ont aucun discernement spirituel, ils prennent tout. Et ils s'empoisonnent. Et Paul dit, mais vous ne devriez pas être des enfants. vous devriez être des maîtres, capables de discerner le bien du mal. Et je suis conscient en partie que ça vient pas que des chrétiens, ça vient de nous, les pasteurs, qui n'avons pas enseigné suffisamment la parole de Dieu. Et je vais terminer avec un verset, avec deux versets. Un verset terrible. Pour moi, c'est un verset qui m'a troublé quand je me suis converti. Mais dans 2 Thessaloniciens, c'est un verset qui m'a troublé. J'avais un mois de conversion et je ne comprenais pas. Mais je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose de terrible cette affaire. Je vous assure. Et aujourd'hui, j'ai compris. Hélas, qu'est-ce que j'aurais aimé ne pas le comprendre. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, ça concerne l'apostasie. L'enlèvement de l'Église, le signe avec un S majuscule qui nous indique que Jésus va revenir quand l'apostasie sera dans l'Église. Et je vous le dis, l'apostasie, elle est dans les Églises. Elle est dans les Églises. Alors regardez ce qui est dit. Verset 9 à verset 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 à verset 12. Ce sont des textes, franchement, ce sont des textes, vous ne les lirez pas sur les posters dans les éditions chrétiennes, ça c'est sûr. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Je n'ai pas le temps de continuer, mais mes frères et sœurs, les gens veulent des miracles. Les gens veulent des prodiges. Et ça, le diable, il saura le faire sans la sainte doctrine. Sans la sainte doctrine. C'est trop long à expliquer. Avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il parle des chrétiens, il parle pas aux pécheurs. Aussi, regardez comment c'est grave. Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et là, vous avez le fait de ce qui est en train de se passer dans les églises. Si on n'aime pas la vérité, on aimera le mensonge. Et le résultat, c'est que Dieu nous abandonnera et qu'il devra déplacer le chandelier et qu'on passera à côté de la bénédiction. Alors, pour conclure, je voudrais lire avec vous un verset, Proverbes chapitre 2. Lisez-le vraiment, avec beaucoup de cœur. Et soyons comme Salomon. Vous vous rappelez, quand Salomon accédait à la royauté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, accorde à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Est-ce que c'est une prière qu'on peut faire? Peut-être que vous n'êtes pas appelé à régner, mais enfin, déjà dans la famille, dans votre famille, dans l'église où Dieu vous a placé, dans le travail où vous êtes, est-ce que Dieu ne vous appelle pas quand même à régner, entre guillemets, à ce que la grâce de Dieu règne dans votre vie? Ben oui. Eh bien, c'est une prière qu'il a faite, Dieu l'a exaucée. Proverbe chapitre 2, verset 2. Regardez bien. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, vous voyez, on n'est pas dans si tu demandes la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. Amen. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Alors, on peut obtenir le discernement spirituel. Vous avez entendu? On peut l'obtenir, vous venez de le lire avec moi. Et j'aimerais qu'on demande au Seigneur qu'il nous interpelle vraiment sur la sanctification. Est-ce que vous en êtes conscient? De tous les jours, à la maison. Voilà, on parlait des paroles grossières, mais de ce que l'on peut voir, de ce que l'on ne peut pas voir, d'endroits où on peut aller, des endroits où on ne peut pas aller. Je crois que si on cherche la sagesse, si on cherche le discernement, Dieu nous l'accordera. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Combien je voudrais que l'on prie pour que ces deux mois de qu'on appelle de vacances soient deux mois où des temps de libre, nous soyons de ceux qui vont dire, mais Seigneur, je veux que ton nom soit sanctifié. Est-ce que vous priez pour les anciens de l'Église? Pour les pasteurs? Parce qu'on va, on a des réunions. On va, ça va pas être de la théorie ce que je suis en train de vous dire. On est dans la pratique. Alors est-ce que nous voulons que le nom du Seigneur soit sanctifié? Est-ce que c'est important pour vous? Et si vous vivez dans le péché, eh bien, sachez qu'on vous aime. Que Dieu vous aime, mais mettez votre vie en règle. Mettez votre vie en règle avec Dieu. Ne venez pas souiller l'œuvre de Dieu si vous vivez dans le péché. Mettez votre vie en règle. En tous les cas, si quelqu'un se nomme frère et qui vive dans ces choses, il va falloir qu'on mette de l'ordre dans l'assemblée. J'aimerais qu'on se lève, s'il vous plaît, ensemble. Qu'on se lève et qu'on termine en priant. Je vais demander à Monsieur Olé, si vous voulez bien. Vous voulez bien venir à ma place? J'aimerais qu'on prie, mais vraiment pour pas que ce soit une étude biblique intéressante qui était peut-être pour les anciens plus que pour les chrétiens. Non. Je voudrais qu'on dise, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Voilà ma prière ce matin. Que ton nom soit sanctifié dans chacune de nos vies. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.
Seigneur, nous sommes là en effet pour te rendre grâce, pour t'adorer. Mais Seigneur, merci pour le message que nous venons d'entendre et qui nous rappelle qu'en effet, tu veux que ton peuple, ce que tu as fait passer des ténèbres à la lumière, soit capable de discerner entre le mal et le bien, de discerner entre tout ce que le monde voudrait imposer et infiltrer dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, dans nos vies communautaires. Seigneur, nous te demandons cette assistance de ton esprit, d'éveiller notre oreille, notre oreille spirituelle, pour que nous puissions entendre ta voix qui nous indique, en effet, où est la différence. Où est ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas, ce qui est précieux et ce qui est au contraire digne d'être rejeté à cause de tout ce qu'il y a de pernicieux dans l'influence du monde. Seigneur, nous te prions de raviver notre intelligence spirituelle, de raviver notre sensibilité spirituelle, de nous rendre capables d'entendre ta voix et d'être capables aussi de mettre en pratique, d'appliquer le conseil que tu nous donnes, Seigneur, car c'est pour notre conseil, c'est pour notre bien que tu multiplies ces avertissements et ces enseignements. Seigneur, oui, rends-nous sensibles à ta parole pour que nous puissions bénéficier de ta grâce, de ta bonté, multipliée, nous savons. Seigneur, tu nous as déjà manifesté ta bonté, tu veux le faire encore, mais Seigneur, aide-nous à ne pas nous laisser piéger par ces influences néfastes et destructrices. Seigneur, oui, révèle ta bonté, manifeste ta bonté et multiplie l'action de ton esprit dans nos vies personnelles pour nous diriger jour après jour dans tes voies et dans les voies de la justice et de la vérité à ton égard. Seigneur, garde-nous dans ta paix, Seigneur, et remplis nos cœurs de joie, en effet, parce que nous savons que nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants, nous sommes ceux que tu veux bénir, que tu veux entourer, que tu veux conduire dans le royaume de la vie véritable, qui est celle de la communion avec Dieu. Seigneur, garde-nous dans ta paix pour cette journée, dans les jours prochains, que nous puissions nous retrouver avec joie, chaque fois que l'occasion peut se présenter. Nous te demandons tout cela au nom béni de Jésus. Merci Seigneur. Amen.